Et bonsoir, c'est Yop du label Les Antipodes. Saviez-vous que Vanille venait d'ouvrir une boutique pour son podcast ? Il y a des t-shirts super stylax que vous pourrez arborer fièrement dans la rue. Il paraît même qu'en achetant deux t-shirts, vous favorisez le retour de l'être aimé. Vous n'avez plus aucune excuse, le lien est dans la description. Et maintenant, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute.
Tired of ads interrupting your gripping investigations ? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous écoutez, c'est creepy.
Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystères en tout genre. Alors déjà, merci pour tous vos avis Apple Podcast, on va tous les lire à la fin, donc restez jusqu'au bout. Et merci également à tous ceux qui participent à mes live Twitch que je fais le dimanche en ce moment. Et du coup, pour pas les rater, allez me suivre sur Twitch, je mets le lien dans la description. On joue à des jeux horreur, on regarde des photos creepy, enfin ça dépend, toutes les semaines on change. Mais c'est cool, on s'amuse, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle affaire bien creepy. Enfin, l'affaire en soi est pas du tout nouvelle, mais vous allez voir, si vous ne la connaissez pas déjà, vous allez tomber de votre chaise. C'est franchement dégueulasse. Je vais vous raconter l'histoire de Carl Tanzler. On y va, c'est parti, musique creepy, let's go. Carl Tanzler est un Allemand né le 8 février 1877 à Dresden en Allemagne. Mais il n'y a pas vécu toute sa vie car avant le début de la Première Guerre mondiale, il part pour l'Australie. Je vais vous lire la préface de son livre autobiographique qui résume un peu sa vie avant son arrivée aux États-Unis, comme ça vous comprendrez pourquoi il est là-bas et pourquoi il a un ego surdimensionné. D'ailleurs, soyez pas surpris, il aime bien aussi se faire appeler Comte Carl Tanzler von Kossel. Donc voilà. Ouvrez les guillemets. Il y a de nombreuses années, Carl von Kossel a voyagé de l'Inde vers l'Australie, avec l'intention de se rendre dans les îles des mers du Sud. Il s'est arrêté en Australie pour récupérer l'équipement et les bateaux appropriés et pour se familiariser avec les conditions météorologiques et maritimes en vigueur. Cependant, il s'y intéresse aux travaux d'ingénierie et d'électricité, achète une propriété, des bateaux, un orgue, une île dans le Pacifique, si bien qu'il est toujours en Australie au bout de 10 ans. Traduction, il a trop de fric. Il venait de commencer à construire un dépliant transocéanique lorsque la guerre éclata et que les autorités militaires britanniques le placèrent dans un camp de concentration pour le garder en lieu sûr, avec de nombreux officiers indiens et chinois qui étaient prisonniers de guerre. Plus tard, il a été transféré à Trial Bay dans une prison ressemblant à un château sur les falaises et là, le travail de ce récit a été accompli. À la fin de la guerre, aucun prisonnier n'a été autorisé à retourner dans son ancienne résidence, mais tous ont été libérés en échange de prisonniers en Hollande. Lorsque Carl von Kossel fut libéré, il partit à la recherche de sa mère dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis le début de la guerre. La trouvant en sécurité, il est resté avec elle pendant 3 ans, témoin du chaos qui a suivi à la suite de la guerre. Enfin, elle proposa à son fils de retourner chez sa sœur aux États-Unis. Voilà, je sais pas si tout ce qu'il raconte est vrai, bien sûr, vu que c'est une autobiographie. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance pour notre histoire, mais juste voyez qu'il aime bien se donner un petit personnage. Et que tout ça, ça a été écrit après notre affaire. Donc voilà, c'était, il aime bien romantiser le début de sa vie, pas trop ce qui a suivi. Mais voilà, on note. Donc après l'Australie, il rentre en Allemagne après la guerre et il se marie avec une madame Doris Schaeffer, avec laquelle il aura deux enfants qui s'appellent Ayesha et Clarista. Le 6 février 1926, il prend la route tout seul. Enfin, le bateau plutôt, depuis Rotterdam pour se rendre aux États-Unis. Il arrive d'abord à Cuba, puis il rejoint sa sœur en Floride, à Zephyr Hills, une petite ville au nom très bizarre. Sa femme et ses deux filles le rejoignent un peu plus tard, mais il les abandonne, un an plus tard pour s'installer à Key West, toujours en Floride, car elle a accepté un poste en tant que radiologue pour l'hôpital de la marine américaine. C'est là d'ailleurs qu'il commence à se faire appeler Carl von Kossel. Pourquoi ? Car quand il était petit, il est parti en voyage en Italie et il dit qu'à ce moment-là, il a eu des visions. Il dit avoir été visité par un ancêtre à lui, la comtesse Anna Constantia von Kossel, et elle lui a montré le visage de son véritable amour qui devra être, je cite, une femme exotique aux cheveux noirs.
Ok.
Et c'est sûrement à ce moment-là que le Zozo a perdu la boule. Je précise que notre cher radiologue n'a jamais fait médecine, de ce que je vois, donc je sais pas comment il devient radiologue du jour au lendemain, mais bon, c'est Carl von Kossel, il peut faire tout ce qu'il veut.
Putain, il est fort ce con.
Et le 22 avril 1930, il rencontre Maria Elena Milagro de Hoyos, une jeune femme de 21 ans, alors que lui, il en a 53. Il est né au siècle dernier, en 1877, rappelez-vous. Leur âge va servir plus tard, hein, bien sûr. Je dis pas ça pour le fun. Elle s'appelle Maria, mais apparemment, on l'appelait Elena, donc on va l'appeler Elena. C'est sa mère qui l'a amenée à l'hôpital ce jour-là pour se faire examiner par un docteur parce qu'elle ne se sentait pas très bien. Petit aparté, Elena, ça fait à peu près 4 ans qu'elle est mariée avec un Luis Mesa, mais il l'a quittée après qu'elle ait fait une fausse couche. Donc il a pris ses valises et il est parti vivre à Miami. Légalement, elle est toujours mariée à Mesa au moment où elle et Carl se rencontrent. Bon, je vous ai balancé plein d'infos qui ont l'air de rien avoir à faire ensemble, mais voilà, ça fait partie de l'histoire, faut que vous les sachiez, c'est tout. À cette époque, la tuberculose fait des ravages. Plusieurs membres de la famille d'Elena en sont morts et Elena ne va pas y échapper. On lui annonce ce jour-là à l'hôpital qu'elle en est atteinte. Malheureusement, x2, c'est notre cher comte Carl von Kossel qui, du haut de ses compétences en médecine inexistantes, va essayer de la soigner. Je dis bien essayer parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de remède. Pour rappel, la tuberculose, c'est une maladie infectieuse qui touche les poumons et il disait juste aux gens « Ah, tu as la tuberculose ? Alors tu as besoin d'une cure d'air. Va faire un tour dans le jardin et respire, ça ira mieux, t'inquiète. » Non, pour de vrai, je rigole pas, il leur disait vraiment ça et c'était tout le principe des sanatoriums qu'ils ont créés à l'époque où ils faisaient des cures d'air pour les gens en campagne. Ils croyaient tellement que respirer l'air de la campagne c'était le remède ultime, bien qu'il fonctionnait sur 0,01 personnes sur 10, qu'ils sont même allés jusqu'à inventer en 1894 une technique pour injecter de l'air dans la cage thoracique. Bien sûr c'était un flop. Mais tout ça, c'était en partie à cause d'un gars qui a dit en 1854 qu'il a guéri de sa tuberculose après avoir séjourné dans l'air pur de l'Himalaya. Donc forcément, ils ont tout misé sur lui. Voilà, on lui dit pas merci. Bref, on s'égare, mais n'empêche que les remèdes de l'époque pour les maladies, ils étaient vraiment aléatoires. On pourrait en faire tout un podcast. Je vous parlais de leur différence d'âge tout à l'heure parce que Carl, bien sûr, il tombe éperdument amoureux d'Elena parce qu'il voit en elle la prédiction de la femme exotique que sa soi-disant ancêtre italienne lui avait prédit. Carl, il sait très bien au fond de lui que c'est foutu pour Elena. Quasiment personne ne guérit de la tuberculose à cette époque, mais il décide de mettre le paquet pour la sauver, et ce, sans suivre le protocole de l'hôpital. Il va la traiter directement à son domicile, chez elle, elle habite chez ses parents, et Carl tente d'abord tout plein de médicaments. Bon, ça marche pas. Il lui fait passer des radios, des scanners, parce que oui, il apporte toutes les machines de l'hôpital en douce chez elle, ça ne les avance pas plus. Mais il est persuadé de ses grandes connaissances et capacités médicales, donc il persévère. Il lui fait boire des toniques expérimentaux, des élixirs, des potions, des tisanes à base d'extraits de plantes. Ça marche pas. Il lui offre des vêtements, des bijoux. Ça marche pas. Son état ne s'améliore pas. Spoiler alert, il faut des antibiotiques pour guérir de la tuberculose. Carl aurait avoué à la jeune femme qu'il était amoureux d'elle, mais bien sûr, on n'a aucune preuve qu'elle ait dit que ce soit réciproque. Donc sur ce coup-là, je penche sur la théorie du gros forceur à 100% et qui s'est persuadé du contraire. Et en plus, techniquement, elle était mariée à ce moment-là. Donc bon, un vieux mec, hein, mais mariée quand même. Quelques semaines passent et Carl apprend la nouvelle. Le 25 octobre 1931, Elena est décédée à son domicile. Est-ce que vous avez ne serait-ce qu'une idée de ce qui va se passer ensuite ? Je parle à ceux qui ne connaissent pas l'histoire là. Est-ce que vous voyez le délire arriver ? Vous n'êtes pas prêts ? Carl, évidemment, il est dévasté. Il paye tous les frais de funérailles à la famille d'Elena et il leur demande s'il peut construire pour elle un immense mausolée en son nom dans le cimetière de Key West. L'homme, il a de la thune, je vous ai dit. Attention. La famille d'Elena accepte. Il trouve ça extrêmement généreux et gentil de sa part. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il est le seul à en garder la clé et qu'il va se passer des choses... pas net. Vraiment pas net. Carrément flou. Pendant 2 ans, le monsieur va venir au cimetière tous les soirs pour passer du temps avec elle. Bon, on va dire, jusque-là, c'est plus ou moins ok. Puis, soudainement, il ne vient plus. Et à ce même moment, il est viré de l'hôpital. Coïncidence ? Je ne pense pas. La famille d'Elena trouve le comportement de Carl très bizarre, mais... il ne s'en inquiète pas trop parce qu'il avait déjà remarqué que c'était un mec un peu chelou de base. Il déplaçait quand même du matériel de l'hôpital en douce chez eux. Donc ils se sont bien rendu compte qu'il était un petit peu obsédé par leur fille. Mais bon, croyant qu'il était un médecin expérimenté et qu'il essayait de toutes ses forces de la sauver, bah voilà, ils ne l'en ont pas empêché. Mais là, le fait qu'il ne vienne plus au cimetière alors qu'il y venait toutes ses soirées pendant 2 ans, ça les turlupine. Et ils ont bien raison d'être inquiets car en avril 1933, alors qu'il rendait visite à sa chère Elena, Carl a décidé que ce soir, c'en était trop. Il en a marre de faire l'aller-retour jusque chez lui tous les soirs. Il prend sa clé, rentre dans le mausolée avec sa pelle. Oui, ce soir, il va la déterrer et la ramener chez lui sur un chariot à roulettes pour enfants. L'esprit d'Elena lui serait apparu quelques fois les soirs où il lui rendait visite, quand il lui chantait des chansons espagnoles assis à côté de sa tombe, et elle lui aurait dit de la déterrer, et ce, à plusieurs reprises. Donc voilà, il a passé le cap, mais une fois chez lui, il est face à un problème. Vous imaginez bien, ça fait quand même 2 ans que le corps d'Elena est rentré en décomposition. Elle est plus si charmante. Pour procéder à son ravalement, il va la déplacer dans un avion qu'il a reconverti en son laboratoire médical personnel, qu'il appelle l'avion d'Elena. Je vous mets la photo sur le site, c'est un peu bancal, je vois pas trop comment c'est pratique pour lui, mais bon, c'est Carl qui décide. Il va prendre un peu de plâtre, un peu de cire et un peu d'huile de coude, il veut lui refaire une beauté. Mais avant ça, il a besoin de resolidifier tout son corps parce que ça part un peu dans tous les sens. Pour ce faire, il resserre les os entre eux avec de la corde de piano et il a rempli son abdomen et sa poitrine de vieux tissus. Comme ça, elle retrouve sa forme originale, entre gros guillemets. Vu que son scalp a pourri, ses cheveux se sont un peu barrés, donc il va utiliser des cheveux d'Elena que sa mère lui avait donné par le passé, parce qu'apparemment elle en avait gardé sous le coude, et il lui en a fait une perruque qu'il lui place sur la tête. Il trempe des morceaux de tissu dans sa tambouille de plâtre et de cire pour recouvrir la chair putréfiée d'Elena et il lui glisse deux yeux de verre pour qu'elle ait de nouveau des yeux, quoi. Il utilise une montagne de produits chimiques, de désinfectants et de parfums pour pallier à l'odeur et essayer de préserver le corps de la décomposition au maximum. Il lui passe des vêtements, des gants, des bijoux, sûrement de ceux qu'il lui avait offerts. Et puis, petit bonus pour lui-même, j'ai pas trop envie de vous le dire, mais je vais le faire. Il lui reconstruit un vagin, en fait, il construit un tube en papier pour qu'il puisse avoir des relations posthumes, je dirais même nécrophiles, avec elle. Sympathique! Par contre, du papier, ça coupe, non? Enfin, je sais pas, après, c'est peut-être du papier mâché. Enfin bon. Bref, Carl est tout content, il la pose dans son lit, comme ça, il peut dormir avec tous les soirs. Il installe même des rideaux tout autour du lit pour avoir un petit peu d'intimité. Donc, ça va durer jusque fin 1940. 7 ans, les gens. 7 ans! Ce qui vient briser cette affreuse routine, c'est la sœur d'Elena qui a entendu des rumeurs que Carl aurait déterré le corps de sa sœur. Comment elle sait ça? En fait, les gens de la ville, qui étaient très petites, ont remarqué qu'il achetait souvent des vêtements pour femmes et du parfum. Parce que oui, pendant 7 ans, il a dû remettre du parfum presque tous les jours, refaire la cire sur son visage, etc. etc. parce qu'en dessous, ça travaille, hein. Quelqu'un a même rapporté qu'il l'aurait vu danser devant sa fenêtre avec une femme ressemblant étrangement à une poupée. Tout de suite, en entendant ça, sa sœur a voulu vérifier. C'est vrai que c'est bizarre qu'il se rende plus tous les soirs au cimetière. Elle se rend immédiatement chez lui et elle toque. Il lui ouvre et l'invite à entrer. Et très vite, elle y trouve ce que les gens ont décrit, une poupée qui ressemble à sa sœur. Sur le moment, bien sûr, ça l'effraie parce qu'elle ne sait pas si c'est une poupée qui ressemble à sa sœur ou si c'est vraiment sa sœur qui ressemble à une poupée. Elle s'enfuit et elle va direct à la police pour leur demander de s'y rendre et vérifier ce qu'il en est de cette poupée. Une équipe de physiciens est appelée pour examiner le corps et donner leur verdict. Et évidemment, c'est bien le corps d'Elena qui est sous leurs yeux. Le corps est disposé à la vue de tout le monde dans un salon funéraire en ville et plus de 6800 personnes vont se bousculer pour aller la voir. Carl est arrêté pour avoir détruit une tombe et déterré un corps sans autorisation. Il est détenu pendant un certain temps, durant lequel il va être évalué psychologiquement, mais ils vont le trouver tout à fait apte mentalement, et de plus, il y a prescription, donc il est relâché. Le corps d'Elena va finalement être enterré à nouveau une bonne fois pour toutes, mais cette fois-ci, la tombe sera anonyme pour éviter qu'on la retrouve et surtout pour qu'on lui foute la paix. Bizarrement, l'opinion publique est pas trop choquée de ce qu'il a fait. Il reçoit même de l'argent de ses fans qui lui écrivent des lettres en prison parce qu'il trouve que c'était un geste ultra romantique, un peu excentrique, mais romantique quand même selon eux et que c'est pas juste de le traiter de la sorte. Une fois qu'il est libéré, le Carl demande à ce que le corps lui soit restitué.
Quelle indignité!
Comme ce n'est pas accordé et qu'il n'a aucune idée d'où se trouve la nouvelle tombe, il décide de quitter Key West en 1944. Il reste en Floride, hein, mais il s'éloigne pas trop et il commence à écrire sa fameuse autobiographie qui sera publiée en 1947 dans un magazine bon marché d'histoire fictive. Il habite pas loin de sa femme Doris, vous vous souvenez d'elle, sa femme et ses filles qu'il a abandonnées au début, eh bien elle va l'aider, le soutenir, comme il est dit, je sais pas si c'est financièrement ou moralement, mais en tout cas elle est là, elle fait son retour, forcé ou pas, aucune idée. Par contre, femme ou pas femme, ça ne va pas lui prendre longtemps avant qu'il recrée une autre version d'Elena. Il avait fabriqué un masque mortuaire à partir de sa tête décédée et ça va l'aider à recréer une poupée toute entière, toute neuve.
Encore ? Ça fait beaucoup là, non ?
Il va vivre à nouveau avec cette poupée jusqu'à sa mort. En 1952, il était âgé de 75 ans. Il est retrouvé 3 semaines après sa mort par terre à son domicile. Certains disent qu'il est retrouvé mort avec sa poupée dans les bras et d'autres disent que non. Donc ça, sur ça on ne saura jamais, mais je pense que c'était une invention pour pousser l'histoire jusqu'au bout. Après sa mort, on entend beaucoup de rumeurs circuler dans le pays. On dit que Carl aurait échangé la véritable poupée contre la fausse avant de partir et qu'il aurait donc fini ses jours avec la vraie Elena. D'autres disent qu'il aurait été payé quelqu'un pour retrouver sa tombe et lui ramener le corps, carrément. En 1982 est publié un article dans lequel on y raconte que des maçons auraient retrouvé une lettre écrite par Carl sur un de leurs chantiers et dans laquelle il aurait avoué avoir tué Elena en l'empoisonnant. Je vous lis le passage. Ouvrez les guillemets. Elle est morte parce que je lui en ai donné avec miséricorde. J'ai mélangé la racine d'aconite avec de l'aconite diluée. C'était agréable au goût et ma bien-aimée a quitté ce monde misérable le 25 octobre 1931. Ne souffrez plus, douce Elena. Je vous ai envoyé aux anges avec mon élixir d'or. Fermez les guillemets. Voilà, c'était l'histoire de Carl Tanzler, l'homme à la poupée. On avait déjà fait une histoire de poupée, si vous êtes intéressé par ces histoires macabres, c'était l'épisode Anatoly Moskvin, le passionné des cimetières, vous pouvez le retrouver sur ma page. J'espère que cet épisode vous aura plu, dites-moi si vous connaissiez l'affaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça permet de remonter dans le classement Apple Podcast et là on est descendu bien bas, on était dans les 30 et là on est à 124. Que s'est-il passé ? D'ailleurs en parlant d'Apple Podcast, on va lire vos avis car je vous avais promis une dédicace à tous ceux qui me laissaient un petit commentaire. Donc c'est parti, on va les lire tout de suite. Alors on commence avec Creepy Mello qui m'a dit « Super, 5 étoiles, j'adore cette chaîne, je l'écoute au travail et ça me fait passer le temps bien plus vite. Absolument pas d'accord avec les commentaires concernant le vocabulaire « Jones ». Je n'en ai pas entendu de particulier, je pense juste que les plaignants sont habitués à écouter France Inter à 2h du matin. » J'aime beaucoup ton humour et la façon de raconter tes histoires. Continue comme ça, c'est un plaisir. Smiley face. Merci Creepy Mello, je suis d'accord avec toi concernant le vocabulaire Jones. Ils n'ont pas l'habitude, c'est tout, et puis on leur en veut pas. Ensuite, on a Samila Street qui me dit « Incroyable, 5 étoiles, le meilleur podcast français, in my opinion ». Merci Samila Street, meilleur, je sais pas, bah après c'est selon toi, ok d'accord j'accepte. Merci beaucoup Samila Street. Ensuite on a Prince Bowie Mercury Jackson qui nous dit « À écouter 5 étoiles, j'adore la façon dont les histoires sont racontées. Bravo pour ce podcast, je suis fan. » Merci à toi Prince pour faire court. Merci d'écouter le podcast et de m'avoir laissé un avis. La vieille, c'est pas moi qui le dis, c'est elle, me dit encore 5 étoiles. J'attends toujours avec impatience, beaucoup d'impatience, pardon, un nouvel épisode de C'est Creepy, merveilleux melting pot d'humour et d'horreur. En gros, je vote pour un épisode par semaine. Oula, alors ça, je le faisais au début, parce que c'était l'hiver et que je me faisais chier, et que j'avais beaucoup le temps. Là, j'ai un petit peu moins le temps, mais j'y pense. Et par contre, je vous mens pas que ça sera sûrement en abonnement parce que je peux pas me consacrer comme ça 3 jours par semaine pour faire un podcast gratuitement. Bon, c'est pas possible. Je suis désolée. Donc, c'est possible. On va voir. Ça arrivera à l'avenir, mais il faut que vous sachiez que ce sera par abonnement Apple Podcast. Voilà. Merci beaucoup la vieille pour son avis. Ensuite, on a Pascal Filosa qui revient avec un nouveau commentaire et qui nous dit 5 étoiles. Donc si je récapitule, Marie, après avoir violé ce pauvre garçon, ah, donc elle nous parle de l'épisode précédent, s'est enfuie à la nage en oubliant sa bouée canard. Comme cette écervelée ne savait pas nager, elle s'est noyée, c'est ballot. Bah oui, c'est ça, hein. Ça aurait pu être une alternative à ce que les juges ont dit comme version, c'est n'importe quoi. En tout cas, on est d'accord. Si vous ne savez pas de quoi on parle, allez écouter le dernier épisode qui s'appelle « Elles sont tuées au même endroit avec 157 ans d'écart ». Waouh, je suis trop forte, je fais ça de mémoire. Merci Pascal pour ton avis et merci d'écouter toutes les semaines. Pascal est toujours en rendez-vous, c'est incroyable. Ensuite, nous avons Matt64T qui me dit « Bravo, 5 étoiles, très bon style et naturel, incomparable avec tous les atouts d'un cast pro, on adore ». Merci à toi Matt64T, c'est trop gentil. Ensuite, j'y vais vite hein, parce qu'on en a beaucoup. Vous avez répondu à mon appel. On a Rémi Lange qui me dit « Top, 5 étoiles, encouragement, très bon. Merci à toi Rémi. Sophie, 79-65. » Oh là là, quand j'ai dit Sophie, on aurait dit Pécresse. Sophie,
debout !
Sophie nous dit « Génial, 5 étoiles, rien d'autre à dire, plutôt un conseil, posez-vous et écoutez. Il fallait les trouver, ces histoires. Voilà 2 jours que je rattrape mon retard et j'accroche à fond. Merci pour l'épisode 9, c'est-à-dire celui sur la réincarnation. Très simplement décrit, mais efficace, et les exemples donnés sont juste waouh. Ah oui, j'ai oublié, bravo pour la documentation parfaite et partagée. Merci beaucoup Sophie, c'est vrai que l'épisode sur la réincarnation, il est ouf. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. J'ai pas trouvé d'autre moyen de le décrire, franchement j'ai retourné ça dans mon cerveau, le titre plusieurs fois, mais voilà, je l'ai juste appelé réincarnation. Et pour la documentation, ben de rien Sophie, de rien, merci pour ton avis. Ensuite, on a Ney135, désolé si je le dis pas bien, qui nous dit « C'est top, 5 étoiles, j'ai découvert ce podcast un samedi soir il y a un mois et demi, peu après avoir déménagé dans mon nouvel appart. Pendant que je faisais mes cartons, entendre ce podcast en étant toute seule dans mon appart est génial, je sens tout de suite une ambiance bien creepy. Les histoires mélangent très bien l'horreur et l'humour et la narration est super bien faite. » Merci beaucoup à toi, Ney ou Ney, merci. Beef527 qui nous dit « C'est creepy, 5 étoiles, un excellent podcast, tout nouveau, tout bon, un ton sympa et qui change, c'est frais, c'est vivant et surtout c'est creepy à écouter d'urgence. » Merci beaucoup Beef527. Nanoui Belly Dance, top, 5 étoiles, une semaine que j'ai découvert tes podcasts et je les enchaîne. Merci pour ce que tu fais, c'est génial, vivement le prochain. Merci à toi Nanoui Belly Dance. Ensuite, on a Sosanga, désolé, je le prononce comme je lis, super podcast, 4 étoiles, j'ai découvert ce podcast il y a quelques mois et je ne loupe aucun épisode et me tarde de nouveaux épisodes. Bravo à vous, ne changez rien, pousse vers le haut, bref, on s'en fout des émotions. Merci à toi pour ton avis et le dernier de Tom88. Excellent et passionnant, bravo, 5 étoiles. Merci beaucoup à tous de m'avoir mis des avis, des notes, en plus c'était des 5 étoiles presque, donc je suis très contente, merci beaucoup à vous, merci beaucoup d'écouter le podcast, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, parce que c'est très important, et je vous dis à dimanche sur Twitch en live vers 19h si vous avez le temps. Je vous mets le lien en description, allez me suivre là-bas, comme ça vous recevrez directement une notif sur votre téléphone ou par mail quand je serai en live dimanche ou peu importe les jours de la semaine que je sois en live, vous serez notifié. Merci également à tous ceux qui me suivent et qui me mettent des notes sur Spotify. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site pour regarder toutes les photos de l'affaire et faire des cauchemars ce soir, ce serait dommage de les rater. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire, dites-le avec moi, bien
creepy.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
T'es encore là ? Envie d'écouter plus d'épisodes de C'est Creepy ? Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend.
Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balles à blanc, en fait.
Okay.
C'est pour faire peur.
Je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio réveil ou je sais pas ce que ça s'appelle. Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache. Sauf qu'à l'époque, ils sont pas très très microbes et bactéries. Du coup, Charles décide d'écourter son séjour à Paris et rentre au Glandier le 3 janvier, au bout de sa vie. Ou plutôt au bout du rouleau de PQ. Et c'est Marie. Vu qu'il y avait des doutes de meurtre, prouvez à tout le monde que ce n'est pas un meurtre, prouvez que c'est un suicide. Refaites les tests, montrez que bah voilà, avec la corde, nanana, lancez le truc par-dessus bord. Non, ils ont rien fait. C'est aberrant.
Quelle indignité.
Sache que tu peux aussi, dès aujourd'hui, rejoindre mon Patreon gratuitement pour tester et écouter un épisode exclusif. Tu auras tout de suite accès à l'épisode sur la macabre histoire d'Ed Gein, mais aussi à la version vidéo de mes épisodes publics que je commence à filmer pour que vous ayez accès aux coulisses. Pour rejoindre, rien de plus simple, tu trouveras le lien Patreon dans la description de cet épisode. À tout de suite pour plus d'histoires bien...
creepy.